Frères et sœurs, le vent a soufflé, n'est-ce pas, cette nuit? Et j'ai entendu un avis de météo marine bien surprenant. Je vous en fais part. Sur la côte catholique et réformée, secteur s'étendant du Concile Vatican II à la vague 1968, vent dominant de force 4 à 5, diminuant de 2 à 4. Temps nuageux à très nuageux, houle agitée. Sur la côte catholique, secteur préconciliaire à charismatique, belles éclaircies, grand beau temps prévu dans les prochaines années. Sur la côte évangélique, sur la côte évangélique, vent de force 6 à 7, localement 8 sur la pointe pentecôtiste, fraîchissant 8 à 9 certains après-midi. Rafale. Certains d'entre vous l'auront constaté ce matin, tandis que certaines églises baptisent à tour de bras chez nous, jour de la Pentecôte où traditionnellement sont confirmés ou baptisés des jeunes terminant le cycle de catéchèse. Aujourd'hui, personne. Alors comment cela se fait-il? La faute à qui? À la société? À l'institution? Au pasteur? Aux parents? Grands-parents? À l'Esprit-Saint? Il y a 500 ans, le vent a soufflé dans l'Église catholique romaine lorsqu'un certain Luther, après d'autres, s'est élevé contre les excès de la papauté et a défié son autorité. S'appuyant sur les Écritures, interprétées à la lumière de l'Esprit-Saint, désormais, chaque protestant a accès à la parole de Dieu. Il n'est plus besoin d'intermédiaire, si ce n'est Christ seul et lui seul, plus de saints et plus de clergés séparés. Le vent a soufflé et a enfoncé portes et fenêtres de la chrétienté. Quelque temps plus tard, Boileau s'écriera « Tout protestant est pape, Bible à la main ». Ceci résume mieux qu'un long discours cette aspiration protestante à l'interprétation personnelle des Écritures. Aucune autorité, aucun pape ne peut en principe lui dire ce qu'il doit penser. Si Brigitte Bardot avait pu chanter sur le protestantisme, elle aurait peut-être chanté « Je n'ai besoin de personne avec ma Bible et l'Esprit-Saint ». Mais il semble bien que c'est à ce type de comportement que Paul a affaire dans cette communauté de Corinthe. Certains, se laissant emporter par leur enthousiasme, je rappelle que enthousiasme signifie être soumis à l'emprise divine, certains donc se laissant emporter sont entrés dans la toute-puissance et ils prétendent être les seuls véritables croyants. Ça me fait penser à cette petite histoire qu'on raconte. Dans ma ville, dit un pasteur, il y a deux églises, une église méthodiste et une église baptiste. Mais heureusement, le vent a soufflé et elles ont fait l'union. Alors, lui demande son interlocuteur, maintenant il n'y en a plus qu'une? Non, il y en a trois. L'église unifiée, l'église méthodiste et l'Église baptiste. Lorsque le vent souffle, nous sommes un certain nombre à soit sortir, soit fermer les portes et les fenêtres, et à nous crisper sur ce qui fait notre identité, nous sommes crispés sur ce qui nous a construit à un moment donné dans notre foi. Ce qui nous a bâti, ce qui nous a fait vibrer, nous. Alors, d'autres courants d'air, ça pourrait nous déstabiliser. Il vaut mieux que ça reste dehors. C'est ainsi que dans les relations entre nos églises, nous trouvons bien plus souvent de la rivalité, du mépris, du dédain, des moqueries, qui dissimulent, semble-t-il, ce que nous jalousons finalement. Or, Paul nous le rappelle, les dons qui nous sont faits par l'Esprit-Saint n'ont pas pour but de nous valoriser nous-mêmes, individuellement ou collectivement, mais ils nous sont donnés en vue de l'utilité commune. Il y a diversité de dons au sein de nos églises. Il y a diversité de dons entre nos églises. Et tout cela est pour l'utilité commune. Ainsi, plutôt que de nous regarder les unes les autres, de nous regarder les uns les autres, de nous jauger, de nous envier, de nous mettre en concurrence, nous sommes invités, nous dit Paul, à nous mettre au service les uns des autres, à adopter un changement de regard, à nous décentrer de soi pour ne plus regarder l'autre comme un rival, mais comme un partenaire. Parce que Paul, lui aussi, est confronté à ce regard. Ce regard qui fait qu'à Corinthe, les uns les autres se regardent avec méfiance, mais le regarde lui aussi avec méfiance. La propre autorité de Paul est menacée du fait qu'il n'a, semble-t-il, jamais manifesté cet enthousiasme dont se prévalent certains. C'est donc un peu contraint qu'il a témoigné à plusieurs reprises de ses expériences mystiques, de ses propres expériences mystiques, non pas des expériences qui sont vécues dans sa communauté, au vu et au su de tous, publiquement, mais dans le secret de sa chambre. Paul en témoigne non pas pour se vanter, mais finalement pour montrer que là n'est pas l'essentiel. Comme il le dit quelques versets plus loin, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Paul relativise la puissance de l'esprit qui ne se manifesterait que dans des phénomènes spectaculaires. Certes, l'esprit agit ainsi, et il serait fou de ne pas y croire. Mais Paul affirme que c'est non pas dans la puissance, mais dans la faiblesse que la grâce de Dieu s'accomplit pleinement. C'est non pas lorsqu'on se trouve transporté dans l'allégresse et dans quasiment dans une forme de lévitation, de sortie du corps, comme nous y invitent les techniques de méditation bouddhiste, mais bien plus lorsque nous nous retrouvons confrontés à nous-mêmes, à notre corps, à nos limites, qui peuvent être la souffrance, la perte, perte d'un être cher, perte d'un membre, perte de notre autonomie, perte de notre raison, perte de notre espérance. Oui, c'est dans cette faiblesse-là, Paul le rappelle, il y a comme une épine qui vient transpercer ma chair. C'est dans cette faiblesse-là que la puissance de la grâce de Dieu s'accomplit. Ainsi, je me retrouve confrontée à ces questions-là lorsque je vais à l'hôpital en tant qu'aumônier et que, me retrouvant face à une personne qui est alitée, qui parfois n'a plus sa raison ou plus toute sa raison, qui parfois ne parle plus ou presque plus, eh bien, la question qui se pose, c'est à qui j'ai affaire là ? À un frère À une sœur ? Oui, certes, je suis venue là pour apporter quelque chose, porter quelque chose. Mais est-ce que je n'ai pas aussi à recevoir ? À recevoir de cette personne qui, a priori, n'a plus rien à donner. N'a plus rien à donner que sa propre souffrance, sa propre étrangeté. J'ai été frappée de cela aussi en maison de retraite, lorsque nous célébrions la scène et qu'il y avait là des personnes désorientées. Comment reçoivent-elles le pain et le vin ? Eh bien, c'est parfois dans le balbutiement d'un Notre Père ou de quelques mots du Notre Père qui est sorti du fin fond de la mémoire, une mémoire enfouie parfois dans les méandres de la maladie d'Alzheimer, que je peux reconnaître l'esprit agissant, que je peux rendre grâce de cette gloire à Dieu qui est dite là. En effet, comme le rappelle Paul, nul ne peut déclarer Jésus est le Seigneur s'il n'est guidé par l'Esprit Saint. Le théologien Dietrich Bonhoeffer nous y interpelle dans sa réflexion sur la vie communautaire. Comment nous recevons-nous comme frères et sœurs ? Comment recevons-nous les charismes dont notre frère ou notre sœur a été pourvu, malgré lui ? Comment est-ce que je reconnais ? Comment est-ce que je discerne ? Comment est-ce que je valorise ? Comment je prends égard pour ces charismes ? Et comment ensemble nous mettons-nous au service de ce corps qu'est l'Église en Christ ? Voilà quelle devrait être notre motivation. Une grâce qui se reçoit aussi par et pour les autres. C'est ainsi que, contrairement à ce que j'ai affirmé en début de cette prédication, je pense que nous avons tous à être médiateurs, les uns pour les autres, et à nous recevoir comme médiateurs. Oui, l'Église est médiatrice. C'est par l'autre, c'est par l'Église aussi, que je puis reconnaître le Christ agissant. S'il y a diversité de dons, n'est-ce pas pour que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres, avec confiance, et en même temps, frères et sœurs. Et en même temps, je dirais que l'Esprit nous échappe et que l'Esprit agit par lui-même et nous ne pouvons pas savoir comment, par qui. Beaucoup d'entre vous l'auront constaté ce matin, en ce jour de la Pentecôte, aucun jeune de notre paroisse ne s'est fait baptiser ou confirmer. Alors comment cela se fait-il ? La faute à qui ? À la société, à l'institution, au pasteur, aux parents, à l'Esprit Saint ? Eh bien, j'ai envie de dire, quelle bonne nouvelle ! Oui, c'est une bonne nouvelle ! Et je vais vous redonner l'avis de Météo ce matin. Le vent souffle où il veut et comme il veut. En vue d'être un seul corps, il y a un an, Laurine, contre toute attente et contre toute habitude dans notre Église, ce jour où je suis venue pour la première fois entendre le culte ici, eh bien Laurine a demandé un baptême par immersion. Et puis, il y a un peu moins d'un mois, Ève a demandé aussi son baptême, non pas le jour de la Pentecôte, le jour de son anniversaire, et lors d'un culte animé par les jeunes, un culte qui nous a parfois décoiffés, parce que ce n'était pas la musique ordinaire, parce que ce n'était pas la liturgie ordinaire, et parce que nous y avons entendu des témoignages édifiants, bouleversants, émouvants. Et puis, je vais vous raconter aussi qu'il y a un mois, juste avant le baptême d'Ève, j'ai reçu un appel, non, juste après, j'ai reçu un appel téléphonique, le baptême d'une jeune de 19 ans, qui n'avait jamais mis les pieds dans l'église, qui n'avait jamais suivi un cours d'école biblique ou de catéchèse, et qui me dit « Je veux être baptisée ». Je l'ai reçue avant-hier, avec beaucoup de scepticisme, en me disant « Mais quel est cet ovni ?» ou cette martienne, si l'on peut dire. Et là, elle m'a raconté qu'elle avait eu une enfance très, très difficile et qu'elle avait toujours senti Dieu à ses côtés, même sans jamais en avoir entendu parler. Alors, bien sûr, elle a une maman protestante à qui elle a pu s'adresser. Mais cette maman lui a fait découvrir pas juste le protestantisme, mais aussi le catholicisme, le bouddhisme, l'islam, tout ce qui pouvait bien exister, pour lui dire « Tu verras plus tard, tu choisiras, tu feras ton chemin. » Et contre toute attente, eh bien cette jeune fille lit la Bible et la lit régulièrement. Et lorsque je lui ai lu le texte de la Pentecôte en acte 2, elle a été bouleversée. Mais lorsque je lui ai proposé de venir ce matin ici, eh bien elle m'a dit « Je ne peux pas, je travaille. » Le vent souffle où il veut, et comme il veut, et pas comme nous voulons. Mais par le baptême, ces trois jeunes filles demandent leur incorporation dans notre Église. Dans notre Église telle qu'elle est. Le vent souffle, frères et sœurs, non pas pour que nous restions confinés dans notre chambre haute, mais pour que les portes et les fenêtres s'ouvrent, pour que l'air y entre, pour qu'y viennent des personnes d'autres églises, des personnes venues d'ailleurs, mais aussi pour que nous sortions, pour que nous nous découvrions les uns les autres et pour qu'ensemble, unis et heureux, nous allions porter cette joie qui nous anime, pour que nous disions, pour que nous proclamions la gloire de Dieu. Voilà ce que c'est que cet accueil inconditionnel que nous prêchons aussi lorsque nous demandons à accueillir les étrangers. Alors, oserons-nous nous laisser emporter par l'Esprit Saint, par ce vent du renouveau ? Avec l'Esprit, tout est possible. Amen.